Bonjour.
Journal Cléa Robert.
Bonjour. La foule des grands jours pour le 125e anniversaire de la Semeuse. Le torréfacteur Chaudefonnier organise des portes ouvertes. La première journée hier a attiré un public nombreux et pas que des buveurs de café. Deuxième service aujourd'hui. Val de Travers fait du bénéfice et offre une reconnaissance au personnel communal dès le 1er juillet. Mais pas question que cette revalorisation soit rétroactive. C'est ce qu'a décidé le législatif wallonien hier soir. Explication dans ce journal. Le squash a-t-il encore un avenir? Avec l'essor du padel notamment, la pratique semble en perte de vitesse. Pour le président du club de Marin, l'arrivée du squash au prochain JO pourrait changer les choses. Il fait beau et chaud cet après-midi, les températures atteindront 32 degrés sur le littoral et 27 dans les montagnes neuchâteloises. Pour les baigneurs, l'eau du lac de Neuchâtel est actuellement à 22 degrés. Pour ses 125 ans, la Semeuse a concocté une cuvée spéciale de son café et elle est corsée selon les amateurs. Le torréfacteur Chaudefonnier ouvre ses portes pour célébrer avec le public son anniversaire. La première journée hier a attiré la foule. Les visiteurs sont arrivés bien avant l'heure dite. Buveurs ou non d'espresso, ils ont été ravis de découvrir l'envers du décor.
Ça fait un moment que je connais la marque, mais je ne bois pas de café.
Vous avez quand même tenu à venir, hein ?
Oui. Je ne connaissais pas du tout le fonctionnement d'une usine. Et là, je trouve que ça permet de voir comment ça se passe.
Vous le buvez comment, votre café, généralement ?
J'ai une cafetière italienne.
Je suis du canton de Vaud.
Vous êtes une grande consommatrice de café ?
Pas du tout. Je ne bois pas de café.
Mais ça ne vous empêche pas d'en apprendre plus sur le café. Ça, c'est plutôt sympa.
Exactement. Comme ça, je sers du bon café à mon compagnon.
La Semeuse, ça évoque quoi pour vous, vous qui êtes chaudefonnier ?
C'est mon enfance. C'est le premier café que j'ai goûté, puis c'est resté.
Vous avez découvert des choses lors de cette visite ?
Les machines en bas. Ça, c'était vraiment impressionnant. Comment elles remplissent les sacs, etc. Et tout. J'aurais pas pensé aussi avec tous les ordinateurs. C'est plus comme dans le temps. Hein.
On habite à Bâle, je dois dire. Mais on commande depuis des années, nos petits pads de café ici à la Semeuse. Alors on s'est dit, bon, ça sera une jolie journée à la Chaudefonnière.
Vous êtes en train de goûter le café du 125e, hein ? Il est comment ?
Très corsé. Moi, je préfère le café un petit peu moins amer, un peu moins fort.
Vous habitez où ?
À Flanté.
C'est où ?
La région du Cornalin, en Valais, Lens, Montana. Mais j'ai habité 50 ans à la Seine, puis ça fait 15 ans que j'habite en Valais. Quand j'ai vu pour ces 125 ans dans le journal, j'ai mis dans mon agenda, j'ai dit, vraiment, ça m'intéresse de venir voir. Hein.
Vous êtes consommateur de café ?
Pas autrement. Je ne sais pas si j'ose dire, mais aujourd'hui, j'ai eu du plaisir à boire un café quand on est arrivé, puis je suppose qu'on va encore en boire. Hein.
Un reportage signé Claire Viget à retrouver en intégralité sur rtn.ch et la fête de la Semeuse se poursuit encore aujourd'hui jusqu'à 18h. Retour dans les chiffres noirs pour Trans-N. Les comptes 2024 des transports publics neuchâtelois ont été validés par les actionnaires hier soir lors de l'Assemblée générale de l'entreprise. Alors qu'un déficit de 2,75 millions avait été budgétisé, le bilan affiche pourtant un bénéfice annuel d'environ 650 000 francs. Trans-N se réjouit également d'une hausse de 3,34% de la fréquentation. En 2024, la compagnie a transporté plus de 28 millions de voyageurs sur ses lignes. Cependant, les ventes de titres de transport ont baissé de 1% par rapport à 2023. Le législatif de Val de Travers est unanime. Il a dit oui hier soir au compte 2024 qui présente un bénéfice de 1,3 million de francs. Le Conseil général a également validé la proposition de l'exécutif de revaloriser le traitement du personnel communal dès le 1er juillet. Les fonctionnaires bénéficieront d'un échelon supplémentaire et d'une indexation des salaires à un peu plus de 2%. La gauche aurait voulu que cette mesure soit rétroactive au 1er janvier. Une proposition balayée en plénum, notamment par la droite. Le chef du groupe PLR explique ce refus, Mike Cortese.
Pour la même raison que le conseil communal, simplement parce que les charges administratives sont très lourdes, ça va surcharger les services RH qui fonctionnent déjà à flux tendu actuellement. Techniquement, ça reste quand même relativement compliqué de faire une adaptation rétroactive, notamment pour la caisse de pension et puis également pour les assurances sociales où il y a des calculs à faire, énormément de calculs à faire et beaucoup de travail. Et c'est clairement un poids sur les finances communales qui sont déjà à ce jour fragiles, qui sont incertaines. On l'a vu ce soir, on a quand même des rentrées financières qui sont là aujourd'hui, mais qui ne seront pas forcément là l'année prochaine. Donc le PLR veut aussi agir de manière responsable par rapport à ça.
Ce soir, la décision qui est prise de revaloriser à partir du 1er juillet, est-ce que c'est de bon augure si on se met à la place du personnel communal pour le budget 2026?
Alors ça, c'est clairement une question à laquelle le conseil communal devra répondre lorsqu'il sera dans l'élaboration du budget. Ça va dépendre vraiment de la situation générale de la commune au moment où on sera dans l'établissement du budget. Après, le groupe PLR l'a proposé ce soir et puis le répète encore, on attend que le conseil communal revienne rapidement vers le conseil général avec des propositions concrètes de comment accéder à l'échelon chaque année afin qu'on puisse vraiment avoir une manière de faire qui soit saine et pérenne.
Mike Cortez, interrogé par Adrien Juvet. La position du Parti Socialiste à ce sujet est à retrouver sur rtn.ch. Vendredi soir mouvementé à La Chaux-de-Fonds, la police cantonale fait état de plusieurs accidents impliquant divers véhicules entre 15h et 23h hier. Deux enfants âgés de 6 et 8 ans se sont fait percuter par des automobilistes alors qu'ils traversaient la chaussée. Le premier vers 15h20 sur un passage piéton et le second à 17h. Dans les deux cas, les enfants ont été blessés et transportés à l'hôpital. Un troisième accident s'est produit plus tard vers 23h10. Une voiture a embouti un véhicule stationné, ce qui a provoqué des collisions en chaîne. Un motard et sa passagère ont été blessés et conduits à l'hôpital, a annoncé la police. Les travaux de démantèlement de la centrale nucléaire de Mühleberg avancent comme prévu. Le chantier doit durer 11 ans et arrive aujourd'hui à mi-parcours. La centrale a été arrêtée le 20 décembre 2019. La décision de fermeture a été prise pour des raisons économiques. Mühleberg est ainsi devenue la première centrale nucléaire suisse à stopper son activité. Le démantèlement a débuté le 6 janvier 2020. Un point sur la situation avec Émilie Charmillot.
Sur les 13 000 tonnes de structures métalliques, 6 700 ont déjà quitté la centrale, indique le chef de la désaffectation. Même après plus de 5 ans de démantèlement, l'extérieur de la centrale reste inchangé, mais c'est à l'intérieur que les travaux sont clairement visibles où de nombreuses installations ont disparu. L'étape la plus importante jusqu'à présent a été le retrait complet de tous les éléments combustibles du réacteur. Ces composants sont triés et nettoyés des résidus radioactifs. Si le rayonnement mesure est inférieure aux valeurs limites fixées par la loi, ils peuvent alors quitter la centrale. Ces restes finissent chez des ferrailleurs ou dans des décharges. De leur côté, les matières fortement radioactives sont acheminées vers le centre de stockage intermédiaire de Würenlingen dans le canton d'Argovie. Elles ne représentent qu'environ 1,5 à 2 % des matériaux démontés.
D'ici fin 2031, la centrale devrait être exempte de matériaux radioactifs. Après un contrôle par les autorités, le démantèlement conventionnel pourra suivre. Les bâtiments devenus inutiles seront alors démolis. Sitôt adopté hier en votation finale par une courte majorité du Parlement, l'imposition individuelle des couples mariés est combattue par référendum. Le centre, l'UDC et l'Union Suisse des Paysans s'allient pour tenter de faire capoter devant le peuple ce qu'ils estiment être un mauvais projet. Selon eux, elle fera des perdants dans les familles traditionnelles. Le futur président du centre, le Valaisan Philippe Mathias Brégui.
C'est une alliance qui a réalisé qu'il y a spécialement des couples avec un salaire bas ou une disparité entre les deux salaires ne profite pas de ce système-là. Ce n'est pas une alliance curieuse. C'était, pendant toutes les discussions, c'était les mêmes partenaires qui étaient contre ce projet de l'imposition individuelle. Et à cause de ça, c'est logique que ces partenaires maintenant lancent le référendum.
Vos meilleurs alliés, ce seront peut-être les ministres cantonaux des Finances qui, majoritairement, sont aussi opposés à cette réforme.
Absolument. C'est une réforme qui est chère pour les cantons. Ils doivent changer tout leur système qui a changé déjà dans les dernières années. Et j'ai l'impression que les ministres financiers sont clairement opposés à ce système-là.
UDC et Centre ont 100 jours pour déposer 50 000 signatures pour faire aboutir le référendum contre l'imposition individuelle. L'achat des avions militaires pourrait coûter bien plus cher que prévu à la Suisse. C'est ce qu'ont démontré les recherches de Benny Gaffner, un connaisseur de l'armée. Il a indiqué que l'acquisition des avions de combat F-35 pourrait coûter environ 1,3 milliard de francs, en plus du prix initial convenu à 6 milliards. Le chercheur s'appuie notamment sur plusieurs sources crédibles dans les différents départements. Hier, lors d'une conférence de presse, le conseiller fédéral Martin Pfister s'est exprimé sur les avions de combat. Selon le chef du département de la Défense, il n'est pas question de rediscuter leur achat malgré le dépôt d'une pétition avec plusieurs dizaines de milliers de signatures.
Il est 12h24.
RTL Sport.
et on parle sport avec vous, Guillaume Joly, bonjour.
Bonjour Claire.
Et on commence par parler d'un sport particulièrement rapide, mais qui se retrouve en perte de vitesse.
Et oui, le squash n'est plus la première activité qui nous vient en tête lorsqu'on évoque des sports de raquettes. Face à l'essor du paddle, notamment, les clubs tentent de résister. À Marin, par exemple, le seul club neuchâtelois joue toujours en interclub et continue de former les personnes intéressées. Malgré la dynamique pas forcément favorable, le président du squash club Marin, Alexandre Guenin, n'est pas inquiet. Il nous parle de l'intérêt actuel pour ce sport dans le canton.
Je dirais qu'il est un peu timide, mais ceux qui viennent jouer sont très enthousiastes. Alors c'est vrai que le paddle a pris une grande place, mais c'est vrai que je ne suis pas inquiet et que je pense que tôt ou tard, le squash reprendra ses droits comme il l'était dans le passé, sans aucune réserve, notamment à la venue des JO. En 2028.
Ce qui peut aider avec les JO, c'est forcément une visibilité. Le squash, c'est télégénique.
Oui, parce que ça se filme beaucoup mieux aujourd'hui. Et puis, je reste convaincu que l'aspect ludique reviendra quand les gens le reverront. Parce qu'on a aussi eu des gens d'un certain âge qui ont arrêté le squash. Et de cette façon-là, en fin de compte, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a eu une forme de perte de suivi. Peut-être aussi pas assez de travail fait vis-à-vis des écoles et tout, pour redynamiser tous les jeunes. Parce qu'il faut aussi trouver des gens qui soient en capacité, en disponibilité pour le faire, ce qu'on n'a pas forcément toujours. Donc voilà, mais je reste assez convaincu que ceux qui verront ça auront envie d'essayer.
Et pour ceux qui seraient tentés par un essai, Alexandre Guenin appelle à la prudence. Entre les raquettes, les balles, les murs et la proximité entre les joueurs, quelques mesures de précaution sont nécessaires. Sujet complet à retrouver sur rtn.ch. Un ultime défi pour Bosna Neuchâtel. Pour son dernier match de la saison, le club de 2e Ligue interrégionale de football a l'occasion de décrocher sa place pour la prochaine Coupe de Suisse cet après-midi. Il affronte l'US Terre Sainte lors du 3e tour qualificatif pour la Coupe. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 17h au centre sportif des Genevais sur Cofrane. Toujours sur les terrains, le Lausanne Sport tient son nouvel entraîneur. Le club vaudois de Super League a officialisé ce matin l'arrivée de Peter Zeidler. Le technicien allemand, ancien coach de Saint-Gall notamment, succède à Ludovic Magnin, lequel vient de signer au FC Bâle. Un gros coup pour Liverpool. Le club de football anglais a confirmé hier soir le recrutement de l'attaquant allemand Florian Wirtz en provenance du Bayern Leverkusen. Le montant du transfert du joueur de 22 ans se situerait entre 135 et 150 millions d'euros selon plusieurs médias. Des montants qui font du milieu offensif la troisième recrue la plus coûteuse de l'histoire, derrière le Brésilien Neymar au PSG et le Français Kylian Mbappé toujours au PSG mais un an plus tard. Le Bayern Munich est en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. L'équipe allemande a dominé Boca Juniors 2-1 à Miami pour décrocher son ticket pour la suite de la compétition. De son côté, Flamengo a aussi effectué un grand pas vers les 8e. Les Brésiliens ont battu les Blues de Chelsea 3-1 à Philadelphie. Et puis un mot de tennis pour conclure avec le retour de Belinda Bencic qui se rapproche. Forfait sur blessure pour Roland Garros, la Saint-Galloise reprendra la compétition sur le gazon de Bad Homburg. La Suissesse affrontera la Russe Ekaterina Alexandrova demain au premier tour de ce tournoi WTA 500.
RTN Sport.